L'expérience commence. C'est l'expérience du temps. Attendre un enfant, c'est tirer un fil entre le passé et demain. C'est forcément devoir faire confiance. Sarah Jacquet et Yvette Jalad Maestroni sont parties au Rwanda. Elles y ont rencontré à Kigali, Nyamata, Nyanza, ceux qui aujourd'hui ont plus de 25 ans et deviennent parents. Ils sont rescapés du génocide des Tutsis en 1994, qui a emporté un ou deux de leurs parents. Ils ont grandi orphelins. Chacun tente de répondre à la question « Comment on devient mère, comment on devient père quand on a grandi sans exemple à suivre ?» Devenir parent, c'est forcément devoir bientôt répondre à des questions, expliquer l'histoire, les disparitions. C'est en tout cas se propulser dans le présent et devoir y faire tenir, et le passé, et l'avenir. Ces jeunes hommes et femmes ont ouvert leur maison pour une discussion intime. Ils réinventent, sans marche à suivre, des familles et des liens. Rwanda, 25 ans après, un nouvel héritage, par Sarah Jacquet, Yvette Jalad Maestroni, réalisation Christine Robert.
Iyo umuntu ari umubyeyi akunda kuririmbira abana be, sibyo? Mwebwe mubaririmbira iki?
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es?
Même si j'ai 38 ans, j'ai pas cessé de ressentir ce manque de père et de mère.
Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien jour.
Pas un seul jour. Tout événement heureux me rappelle mes parents. Je vis toujours dans si j'étais. C'est comme si je vis toujours dans le passé.
Personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. C'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché. Ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es?
Où t'es, papa, où t'es?
Où t'es,
papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es?
Allez, get qui t'es.
Il y a des moments où on est là tranquille, assis avec les enfants, et ils viennent me demander, ta maman elle est où? Ton papa, il est où? Ensuite ils vont vers leur père et ils leur demandent la même chose. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, on leur explique petit à petit.
Où est ton papa?
Dis-moi où est ton papa?
Papa wa wali he. Bibazobyo barabizi.
Sacré papa.
Dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Rwanda, 25 ans après.
Murage mushya.
Un nouvel héritage.
Murage mushyashya.
Sarah Jacquet,
Yvette Jalad Maestroni
et Christine Robert.
Il y a une chanson que j'aime bien. Elle dit
«
Papa, quel était ton visage ? Maman, je ne me rappelle pas de ton visage. » Il y en a une autre aussi que j'aime bien. Le sang de tes fidèles est tracé sur les murs des églises. Leurs cris et leur tristesse n'ont pas dépassé le plafond. Je les vois devant l'autel. Ce sont ces chansons de tristesse-là que je chante à mes enfants. Je ne sais plus qui chante. Est-ce que c'est Kaylebga? Je ne sais plus.
Nari narayifashe no mu ishuri najyaga nyirinimba bayimbajije.
Et il me faisait trembler, les héros qui nous ont sauvés. Les petits n'ont pas survécu. Les orphelins appellent au secours. Il faut se mettre en marche au moment où on peut toujours marcher, avant que le chemin ne se ferme. Aidez-les comme si vous vous aidiez vous-même, parce que cela nous concerne tous.
Depuis le génocide, juste après le génocide, je n'avais pas envie de fonder une famille parce que je me disais, j'avais mes parents, ils sont morts, ils ont été tués par des gens, ils ont été tués sans raison. Et puis je me disais, si jamais je me marie et j'ai des enfants, et si jamais ça se répète, le génocide, ça me rendrait malheureux si je ne voyais pas mes enfants grandir comme mon père et ma mère ne m'ont pas vu grandir. Parce que je les ai perdus à 16 ans. J'avais 16 ans quand le génocide s'est passé.
Papa, ese wasagute, mama, sinibuka isura yawe.
C'est bizarre, tu vois, petit à petit, on commence à les oublier. Les paroles. C'est drôle. Les chemins, les églises. On oublie les paroles.
Au Rwanda, 25 ans après le génocide des Tutsis de 1994, par-delà les morts, la douleur, la colère et l'amertume, les orphelins du génocide se reconstruisent. Ils deviennent parents à leur tour.
Dévote, Bonheur, Justine, Paul, Brigitte, Damas, Narcisse, Ange vivent à Kigali, Nyamata, Nyanza, Isseni, en ville et à la campagne. Ils cultivent leur terre, sont maîtres d'école ou sans emploi. Ils doivent se réinventer, sans modèle, parfois sans souvenir ou même une photo.
Ils nous racontent leur reconstruction intime, la première fois qu'ils ont réaimé, comment et quand ils ont à nouveau cru en la vie. Il nous parle de ce quelque chose qui manque et qui lancine. Ces proches qui ne sont plus là mais qui ne quittent pas leurs pensées. Ces trous béants laissés par les absents et qui ressurgissent à certaines étapes importantes de leur vie.
Dans la joie, l'espoir ou la crainte, ils se demandent comment être parents, sans marche à suivre, car ils sont parfois le seul exemplaire qui reste de leur famille. Les leurs ont été tués, massacrés, parce qu'ils étaient Tutsis.
Ils n'ont pas pu les enterrer. Ce deuil impossible cohabite en eux avec l'énergie du renouveau, de la vie à réhabiliter, de la paix à entretenir.
Ils veulent écrire un nouvel héritage, pour eux et pour leur pays.
Lance-moi encore, je lance.
Mes parents ont été tués pendant le génocide. Et certains de mes sœurs et mes frères. Ma vie a tout changé. D'un coup.
Lui, c'est Paul, je le connais bien. Il habite à Kigali, dans le quartier de Nyamirambo. C'est un quartier très populaire à Kigali.
Il a une fille, Tania, et il attend un autre enfant.
Avant, mon père me donnait tout. Et je dépendais totalement de mon père. Les conseils, il m'orientait beaucoup. Et puis, quand je l'ai perdu, je me suis dit, à quoi bon continuer à vivre ou à raisonner comme des gens normaux. Je me rappelle, juste après le génocide, les autres garçons de mon âge sont retournés à l'école. Mais moi, je n'ai pas retourné à l'école directement. J'ai passé une année galérant, buvant, essayant d'apprendre à fumer, parce que je n'avais pas de raison de continuer à vivre pour moi. Je ne faisais pas confiance aux gens. J'étais méfiant de tout le monde. Je ne sais pas, c'était comme si je me retirais dans mon propre coin, tout seul. Puis je me suis dit, je ne m'en marierai jamais dans ma vie. Je me suis dit, je vais me chercher des partenaires, je vais vivre avec des filles, mais je ne vais pas avoir d'enfants. C'était comme me rebeller, me révolter à cause de ce qui m'était arrivé.
Narcisse Moudaïnouka, directeur d'école secondaire. Je suis rescapé du génocide. Hein.
Narcisse travaille à Nyanza. Il s'est marié un peu tard, il est père de deux enfants. On s'est abrité du soleil sous un arbre, à côté de l'école où il travaille.
Être orphelin du génocide au Rwanda, c'est avoir perdu soit les deux parents, papa, maman, ou bien un des parents, pendant le génocide. Quand l'enfant orphelin, quand il est démembré, il n'a plus ses parents, et donc vous savez, il n'a plus le toit, il n'a plus où loger, il n'a plus la nourriture, il n'a plus les habits, il n'a plus le vêtement, il doit se débrouiller lui-même. L'orphelin sent ce vide, le vide, et ce qui est plus cher, c'est l'affection, parce que les biens et la richesse, c'est relatif. L'affection du papa, l'affection de la maman, quand tu ne vois pas l'assistance de ses parents, les cajolages, l'amadouage, tout ça, de ses parents, il vit une dépression profonde qui peut se manifester par des crises traumatiques ou même l'effort qui diminue pendant le cours, on ne suit pas ses cours, il a des résultats médiocres. Alors, vous voyez, donc il souffre dans tous les sens, dans tous les sens. Nous-mêmes, on n'est pas sains, on essaie de sortir. Moi, j'ai vécu cette situation de rejet, moi-même personnellement. Quand j'étais à l'université, je prenais beaucoup de bière, je n'achetais pas beaucoup de vêtements, j'avais deux pantalons, trois chemises, je dis ça me suffisait. J'ai vécu cette situation. Je me suis rejeté, c'est après, les amis, la famille disaient quand même, qu'est-ce, pourquoi tu te hais toi-même, pourquoi tu vas dans l'alcool, je prenais une quantité de bière. Je passais des nuits. J'ai vécu beaucoup d'années dans ces situations, hein. Plus de 5, 6.
Mes parents, ils étaient encore en vie avant le génocide. J'avais 6 ans. On était 6 enfants à la maison. Mes frères et sœurs, mon père, ma mère. Ils ont tous été tués pendant le génocide. Je suis la seule à avoir survécu.
Dévote a 28 ans, elle est mariée et elle a deux enfants.
Deux filles, elle habite Nyanza.
Ils
nous ont emmenés dans un orphelinat à Bugesera. Les gens cherchaient à retrouver les leurs parmi les survivants. Ils venaient nous voir à l'orphelinat. Ils mettaient des photos un peu partout, en espérant retrouver des enfants qu'ils connaissaient, pour les adopter et en prendre soin. Une de mes tantes est venue. Elle m'a reconnue. Elle m'a prise avec elle. Deux de ses enfants avaient été tués. Il lui en restait trois, des garçons. Mon mari, lui aussi, il est de Mayaga, chez nous. On s'est connus à l'association des étudiants rescapés du génocide. Lui, il avait fini ses études, il est plus âgé que moi. Avec d'autres, il venait pour échanger avec nous et nous aider à ne pas nous sentir trop seuls. Il m'a fait sa déclaration d'amour et j'ai accepté. Je suis partie vivre avec lui. J'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui m'aime et qui m'accepte. Pourquoi ne pas essayer de fonder une famille ? Avoir des enfants, vivre la joie du mariage et que les larmes cessent.
En fait, quand on rencontre quelqu'un, c'est génial, c'est beau, mais quand il arrive le temps sérieux de planifier quelque chose, il y a quelque chose d'effrayant. Je me posais la question, est-ce que je suis prêt ou est-ce que je serais capable de vivre avec une femme? Je saute en 2010, quand j'ai rencontré Jeanne d'Arc. Je l'ai vu, je l'ai aimé. Sur le premier coup, c'était le coup de foudre pour moi. Puis je me suis dit, cette fille, elle est belle, mais aussi on peut fonder quelque chose de solide. On peut fonder une famille. Je me suis souvenu de ma mère. Je ne sais pas, c'était magique. Et j'ai commencé à projeter de loin. J'ai commencé à me voir avec elle, avec une ribambelle d'enfants. Ouais. Et puis, notre histoire nous a un peu unis. Elle est rescapée. Je crois que cela aussi a compté dans mes plans. Et puis... Comment dire, cette peur que j'avais d'avoir des enfants ou d'épargner les enfants de la souffrance que j'ai eue dans mon enfance, l'absence des parents au moment où j'en avais trop besoin, est partie, je sais pas.
Je vais demander ta main à ton père et à ta mère.
Igihe cyose nari narabayeho nta na rimwe numvaga nishimye.
Pas une seule fois depuis tout le temps que j'avais vécu avant, je ne m'étais sentie heureuse.
Cyane ukitekerezaho n'ubuzima ejo mu gitondo wabuze inkweto.
Un jour, tu as besoin de te chausser et tu ne peux pas. Le lendemain, tu as besoin d'une crème pour ta peau desséchée. Ou de te faire tresser les cheveux, mais tu n'en as pas les moyens. Mais maintenant, j'ai quelqu'un pour m'aider. Si un matin, j'ai besoin de crème, je lui en parle et pas de problème, il me la donne. Car c'est lui mon père, c'est ma mère, c'est même mon frère et ma sœur. C'est ma seule famille. Et il me comprend. Et il le fait non seulement par amour, mais aussi parce qu'il sait bien que je n'ai personne d'autre que lui. En plus, il le fait avec plaisir.
Ton mari, il est plus âgé que toi ?
Oui, il a 15 ans de plus. Je vois en lui un père. Je vois en lui mon tout. Parce que de toute façon, à qui d'autre pourrais-je le comparer ? Il est plus sage que moi. Quand je m'égare un peu, il me guide. Quand je me comporte comme une gamine, il me ramène à la réalité. C'est un avantage pour moi d'avoir un mari plus âgé.
Je suis marié depuis 2014, une Burundaise, que j'aime bien d'ailleurs. Ben, j'ai un fils déjà, il a maintenant 6 mois.
Bonheur Pacifique, il vit à Kigali, on se connaît bien.
Je suis rwandais, rescapé du génocide contre les Tutsis. J'ai 28 ans, je suis né dans une famille de 6 personnes. Je suis le seul qui est resté, avec mon père aussi. Et ma mère, mes soeurs... Mes frères sont tous partis. quelque chose qui revient tout le temps, de dire à ma femme, quand je la regarde, je vois ma mère. Quand vous perdez votre mère, c'est comme si c'était la fin du monde. Il y a toujours ce sentiment que tu n'as pas ta mère à côté de toi et que tu n'as même pas vu comment elle est partie. L'une des choses qu'on a parlé quand on s'est marié, c'était est-ce que tu vas remplacer ma mère? Tu as joué le rôle d'être ma mère parce que je vais commettre beaucoup d'erreurs. Et je voudrais avoir une mère qui me dit arrête de faire ça, mais qui me le dise comme si c'était son fils, pas son mari. Des fois, on prend ça comme des blagues. Mais sûrement, je crois que elle en souffre. Il faudra aussi que les gens apprennent que ta mère, elle est partie. Il faut que tu apprennes à la lâcher, d'accepter qu'elle est partie et de vivre une autre vie conjugale. Ça a toujours un rapport avec le fait de ne pas avoir eu le temps de te séparer à la mort de ta mère. Donc il y a ce rapport qui reste là, mais il faudra qu'on l'accepte. C'est l'un des sacrifices que cette génération doit vivre, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, tu vois.
C'est Brigitte. Brigitte, mariée, 4 enfants. Elle vit à Nyanza. Oui, c'est dans le sud du pays.
Je
suis mariée et 4 enfants. Mon grand a 12 ans. Il est dans le secondaire. Le petit a 5 ans. Tu vois, je suis vieille. Je suis dans le groupe des anciens rescapés du génocide. Dans la famille GARG, qui s'appelle la famille Kichumbi. Et je suis la mère de cette famille. C'est comme une solution que les rescapés du génocide ont trouvée entre eux pour cesser de se dire qu'ils n'avaient pas de famille. Quand on a fini nos études à l'université et qu'on est rentré dans la vie active, on s'est dit, on va faire quoi ensuite? Du coup, c'est comme si fonder la GARG, c'était rassembler ou recomposer d'autres familles, des nouvelles familles. Vraiment, quand tu es en famille, ça y ressemble très pour très. Tu n'es plus seule. Même pour moi, en tant que mère dans cette famille, je vois que les enfants m'apportent beaucoup. Tout comme à la maison, les parents, papa, maman s'associent avec les enfants et discutent de leurs problèmes et que leurs enfants contribuent aussi. On fait quoi? On discute, on se donne des conseils. C'est comme ça qu'on vit en famille et ça permet de nous reconstruire. Personne ne se sent trop seul. Par exemple, dans les occasions de mariage, on se met ensemble et on trouve des solutions. Quand tu te maries et que tu te retrouves sans personne, ni père, ni mère, ni personne de ta famille à tes côtés, là tu te rends compte que vraiment le génocide a existé.
Mm-hmm.
Je me sentais très mal quand j'allais dans les autres mariages. Je voyais les mariés avec les petits paniers traditionnels, ce qu'on donne aux belles-mères. Et je me disais, j'ai été trimballée de gauche à droite, chez ma mère adoptive, chez ma tante, à l'orphelinat, à qui attribuer ces paniers qui auraient dû revenir à ma mère. Je me demandais, qui viendra à mon mariage? Pendant les préparatifs, on me disait, il faut louer des tentes pour accueillir les gens, et je pensais, je n'ai pas envie. Il n'y aura personne pour les remplir puisque je n'ai plus de famille. Mais Dieu fait des miracles. Ma tante a invité des amis, des gens de Nyanza. Beaucoup de gens sont venus. J'avais invité des collègues de travail, des amis d'enfance de l'association des rescapés du génocide. Même les voisins étaient là. Mon mari aussi avait invité pas mal de monde. Du coup, la tente était complètement remplie. Dans la tradition rwandaise, pendant la cérémonie du mariage, des femmes âgées de la famille viennent voir la mariée et elles lui donnent des conseils pour la nuit de noces. J'espérais qu'une de mes tantes ou une de leurs amies viendrait me voir. Elle me mettrait un peu à l'écart et m'expliquerait comment ça se passe. Mais je n'ai pas eu ces conseils. Ça a été pour moi une grande déception. J'aurais aimé en avoir au moins quelques bribes. Du coup, j'ai commencé à taquiner les femmes plus âgées avec qui je travaillais. J'insistais. Je leur demandais comment ça se passe dans l'intimité. Quand je rentrais, j'étais un peu triste et je me disais, comment est-ce possible de construire un foyer sans personne pour me dire comment faire? Au moment du mariage, on doit se coordonner avec les mamans de la famille proche pour qu'elles mettent des vêtements de la même couleur. Et je me demandais comment faire. Je n'avais ni tante, ni membre de ma famille à habiller de telle ou telle couleur. J'ai dit à tout le monde de faire ce qu'il voulait. Le plus important, c'était le mariage. C'est ça qui allait me rendre heureuse. Le témoin, je l'avais. Mais les mamans, là, les tantes, je n'en avais pas. Et je suis allée les chercher, au hasard, parmi celles avec qui je travaillais, celles de la famille d'accueil que je ne connaissais pas. Je sentais que ça me faisait mal au cœur, mais je l'ai accueillie comme mon histoire. Et j'ai accepté que c'était comme ça que ça devait se passer.
Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, na.
C'était le 6 avril 2014. On allait commencer la journée de commémoration nationale du génocide contre les Tutsis. C'était très ouf au boulot. C'est là que l'événement national devrait se dérouler. On avait beaucoup de travail à faire. Et du coup, je reçois cet appel et j'ai senti quelque chose immédiatement. Elle me dit, tu dois rentrer vite après le boulot, je dois te parler. Et dès que je l'ai vue, je lui ai demandé cette question, est-ce que tu es enceinte ? Parce que j'avais ressenti quelque chose immédiatement quand elle m'a dit ça.
Et c'est ce moment-là qui va te changer, qui va te faire changer d'avis complètement. Pas dans la tête, pas dans la peau, pas dans les yeux, mais chaque cellule de ton organisme va changer d'avis. C'est une transformation pour moi. Moi, j'avais vraiment envie de voir mon père, de voir ma mère ce moment-là et de dire, peut-être même juste pour une seconde, à dire, maman, merci, papa, merci. Et les laisser retourner là où ils sont.
Tout allait bien, le travail avait bien commencé. On était, je ne sais pas le terme médical, mais on dit 7 cm, quelque chose. C'était très bien, mais juste à 8 cm, tout change. Les pieds gonflent. J'avais peur, pas seulement de perdre l'amour qui est de ma vie, mais seulement, je me demandais, Dieu, pourquoi tu veux me faire ça ? Je vais perdre un fils, mon fils. Donc, il y a la mort qui m'entoure partout. J'en ai perdu beaucoup. Je voudrais pas perdre quand même mon fils. Il y avait la peur qui est survenue après et qui m'a fait penser à beaucoup de choses. Mais il y a un sentiment qui est très commun, surtout aux rescapés du génocide. Je dirais d'avoir peur de perdre encore. Tu vois, imagine si c'est ton fils alors, ou ta fille. Alors que même celle que tu as perdue avant, c'est ça le génocide en fait, tu n'as même pas eu le temps de l'enterrer, tu n'as même pas eu le temps de faire la deuil pour lui et tout. Donc ça revient ce sentiment. Pourquoi moi encore ? J'étais bouleversé, j'avais peur. Je pensais pas bonheur devenir père. Mais aussi c'était un moment de grandes larmes. J'ai pleuré comme un petit enfant quand j'ai juste appris que tout est allé bien. Et quand j'ai vu mon fils, j'ai pleuré une rivière. J'ai pleuré comme un petit enfant. Il s'appelle Excellent Mayel, qui veut dire leader. chinois qui veut dire être apprécié par Dieu, mais aussi par des gens qui t'entourent. C'est l'une des qualités que j'ai voulu transmettre à mon fils. Et je crois qu'il en a déjà. Il est très aimable. There's a time I will go to my brother.
Gunnar.
Viens à maman, viens à maman. Va chercher le pantalon.
C'est foutu, hein? Des cris.
Damas, 32 ans. C'est un médecin. Il est très courageux. Il est marié à Gisèle et ils ont un fils et un autre enfant en route.
Ouais. Donc mon fils s'appelle Genesis et c'est vraiment un nom chargé. Genesis, c'est le nom qui dérive de la Bible, le commencement. Le commencement, mais aussi continuité, quelque chose qui est créé, que tu ne peux pas le tourner, détruire. C'est cette vie qui commence vraiment. Pour moi, je souhaite un nouveau commencement pour mon enfant. Je me dis que il faut que ça arrête, il faut que ça s'arrête, hein, cette souffrance de moi et Genesis, de dire Genesis, voilà, commence quelque chose, que ce qui est arrivé à moi ne s'applique pas à toi, parce que si, toi c'est le commencement, hein, je me considère comme fin d'une histoire tragique, des gens qui héritent, des souffrances inimaginables. Et Genesis, c'est pour ça. Je vais dire que être un parent n'est pas facile. Si on parle de vie, maintenant, j'ai beaucoup d'assurance, parce que quand tu as une famille, c'est vrai, c'est ici, c'est mon enfant, c'est ma femme, les gens qui entrent par cette porte sont nos amis. Avant, j'avais peur de la mort. Je me disais, si jamais je meurs, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est fini pour nous, hein? Ça serait la réussite dans le génocide, tout ça. Mais maintenant, c'est plus pareil. Il y a un Genesis, même si je meurs, il va vivre. Il y a mon père qui m'a transmis une vie. Maintenant, c'est transmis. C'est fait. C'est sûr. Genesis, il va vivre.
Certaines
fois, je retourne dans le passé à cause de notre histoire. Ça me fait beaucoup réfléchir. Et même si j'étais trop petite pour tout comprendre, je me faisais quand même une petite idée. Et cette façon dont je voyais les choses me coince dans le passé. Mais quand je regarde vers l'avenir, j'ai confiance en la vie. Ça m'aide beaucoup. Je cherche une autre manière de faire, avec la force dont je dispose, mais aussi avec la force de ceux qui ne sont plus là. La force que ma grand-mère aurait, c'est moi qui dois l'avoir. La force que leur tante aurait, que notre famille aurait, s'ils étaient encore en vie. C'est à moi de tout donner pour que mes enfants soient heureux. Pour qu'ils ne puissent jamais se dire « Maman nous a élevés toutes seules ». Non, il faut qu'ils se disent que j'ai vraiment tout fait pour qu'ils aient une belle vie. C'est comme ça que je vois les choses.
Mmh. yaravugaga ngo ngo inzi kirizi yazi ayingire ne nkuri kiri ese mbaze nde ko nabajija
takiriho. À qui demander quand la seule personne qui pourrait me répondre n'est plus là?
C'est Ange, Charlotte et Justine.
On les a rencontrés à côté du mémorial de Nyamata.
Quand je suis arrivée au Rwanda, je ne savais pas où j'étais. C'est comme si mon cœur était sorti hors de ma poitrine. Les belles collines sont désertées. Les corbeaux ont remplacé les enfants. L'église de Dieu est remplie par les cadavres. Partout, des mines. C'est la nuit ou le jour, on ne sait plus. Pour être tué par une balle, il fallait payer. Si tu ne payes pas pour ça, tu vas te faire couper en morceaux. Ça, c'est juste terrible, épouvantable. Tu te rends compte de ce qu'on chante à nos enfants? Je m'appelle Ange Niyongera.
Elle habite à Nyamata.
Ange, elle est mariée. Elle a deux enfants, un garçon et une fille.
Pendant le génocide, j'avais environ 6 ans. J'ai encore ma mère qui est handicapée car on lui a coupé les deux bras. Je suis restée seule avec des frères et sœurs plus grands que moi. Avant, j'avais un trauma extrême. Pendant la commémoration, c'était dur. J'avais un très gros traumatisme. Je ne savais pas où j'en étais, c'était vraiment dur. Je me souviens en 2008, on avait fait une commémoration ici. J'ai dû aller à l'hôpital. J'avais mon petit garçon, Manzi. Il avait 1 an, peut-être 1 an et demi. Ma mère est venue me voir à l'hôpital, je me rappelle. Elle m'a dit, Manzi a vraiment besoin de toi. Et là, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, aide-moi à sortir de cette situation. Je n'ai plus envie de pleurer. Je n'ai plus envie que mon enfant pleure. Je t'en prie, laisse-moi voir en mon enfant tout ce qu'il me faut. Et ça a plus ou moins marché. Je n'ai pas eu de traumatisme comme avant, quand je m'enfermais dans la chambre et que je pleurais. Ça a tout changé pour moi d'avoir des enfants. J'ai plus le temps de m'apitoyer sur moi-même. Tout mon temps, je dois le consacrer à mes enfants. Mais tu vois, quand ils partent à l'école et que j'ai un petit souci, je m'enferme dans ma chambre et je pleure. Mais quand ils rentrent de l'école, je fais comme si de rien n'était et on discute, on rigole. Il y a cette autre chanson où il dit « Si seulement vous étiez encore là, vous pourriez voir comme nous sommes devenus grands et forts. Vous seriez fiers de nous. Comment on a construit de belles familles. »
Nizona
Tu vois, ces chansons, je les connais par cœur. Je pourrais les chanter toute la journée. Mais ces chansons, c'est elles qui nous permettent de nous nettoyer, de nous purifier, comme une pluie. Ces chansons, tu vois, elles libèrent mon cœur.
Je m'attends à des questions. Je m'y fais déjà. Je sais qu'il y aura des questions qui vont venir quand il va commencer l'école. Il y aura des enfants qui vont parler des grands-mères et grands-pères et tout. J'ai de la chance. Mon papa, il est toujours là, je l'aime bien. Sa maman, ma femme, elle est toujours là aussi. Il y aura des questions qui seront genre « Hey, papa, pourquoi on ne va pas voir grand-mère ?» Parce qu'elle a appris ça à l'école. Parce qu'il y en a d'autres enfants qui ont des grands-mères et grands-pères. Et du coup, il y aura une autre question, où est-ce qu'elle est partie? Et pourquoi elle est partie? Pourquoi elle est morte? Et je vais devoir lui raconter toute l'histoire. Il ne sera pas capable de tout piger, tout comprendre. Et aussi, tu vois, il va aussi souffrir de cette angoisse.
C'est vrai que ça revient, et qu'il vient me voir et qu'il me demande de temps en temps « Maman, comment c'était pour ta maman ?» Je manque de réponses à lui donner, mais le seul fait qu'il me pose des questions, ça me fait plaisir. Il vient, il me dérange, il me demande des nouvelles, même celles du travail où j'ai passé mon temps. Quand je rentre, il me demande tout ça. La plus grande commence à être assez futée. Quand la maman de mon mari est décédée, elle avait 6 mois. Parfois, elle voit la vidéo de son enterrement ou des photos d'elle. Elle dit « Voilà tate ». Et quand elle demande où est tate, on lui répond que tate est montée au ciel. Elle me demande alors, si la maman de papa, Tate, est au ciel, ta maman à toi, elle est où? Ton papa à toi, il est où? Pourquoi on n'a pas vu sa vidéo le jour de son enterrement à elle? Je lui réponds que pour son cas, des gens mauvais l'ont tué. Et elle me dit, ils l'ont tué comment? Il y a longtemps, il y a eu un génocide et ils ont tué des gens. Parmi eux, il y avait ma maman et mon papa. Et toi, comment ça se fait que tu n'es pas morte? Ces questions d'enfant t'interrogent à ton tour. Je lui réponds que Dieu m'a protégée. J'ai survécu, mais mon papa et ma maman sont morts. Maintenant, ils savent que leur maman n'a ni père ni mère et qu'ils ont été tués durant le génocide. Ils sont au courant.
Pour le moment, je ne peux pas prétendre que je suis la bonne personne pour parler à Tania. Parce que si je le fais mal, ça peut lui affecter. C'est la confusion totale pour moi, pour maintenant. Mais je me dis toujours, elle est encore jeune, elle a 3 ans.
Mais le temps fait tic-tac.
J'ai commencé à m'habituer à ma vie d'orpheline, même si personne ne s'habitue vraiment à de telles choses. On se force à penser à autre chose. Pour réussir à se lever, à aller travailler au champ. Parce que si tu continues à ressasser tout ça et à ne rien faire, tu renonces même à te laver ou t'habiller et tu deviens fou. Je m'appelle Justine et j'habite à Nyamata. J'ai deux enfants, mais je n'ai pas de mari. Moi, je suis cultivatrice.
Et tu cultives quoi ?
Oh, je cultive plusieurs choses, mais souvent des bananes.
Elle a même du taro.
Oui, je ne sais d'abord.
J'avais 10 ans pendant le génocide. Il a emporté mes parents et toute ma famille. Je suis la seule à avoir survécu. Tu essaies juste d'oublier. Ne serait-ce que pour les enfants que tu as mis au monde, pour qu'ils grandissent dans une bonne ambiance, pour qu'ils n'en subissent pas les conséquences. À la naissance de mon deuxième enfant, j'ai compris qu'il fallait que je me reprenne en main, que j'arrête ces profondes introspections, surtout que j'ai rapidement eu des problèmes avec mon mari. J'ai donc bloqué toute pensée sur la période du génocide, sur le fait que je sois orpheline. Parce que je me suis dit que si je continuais à penser à tout ça, je serais incapable d'élever mes enfants. Je me suis dit que ce qui s'est passé est passé. Il fallait que je sois forte pour mes enfants. L'aîné me questionne sur le sujet, même s'il apprend des choses à l'école, mais le petit, lui, me demande souvent « Maman, pourquoi tu n'as pas de mère ? Pourquoi tu n'as pas de père ?» Et moi, je fais ce que je peux pour essayer de lui donner des réponses qu'il peut comprendre à son âge. Il faut bien leur expliquer, alors tu fais avec. Tu acceptes de retourner dans le passé. Mais il faut être forte pour qu'il ne voit rien. Tu donnes tout pour qu'il ne voit pas que tu es malheureuse. J'arrive mieux à parler avec le plus grand. Je lui explique l'histoire, comment ça s'est passé, que c'est à cause d'un mauvais gouvernement. J'arrive à parler des ethnies, même si je ne rentre pas dans les détails, je lui explique quand même. Le petit, il nous fait rire parfois. Pendant la commémoration, on l'entend faire peur à son frère en disant « Aujourd'hui, c'est le génocide. Attention, il va venir te manger. » Pour lui, le génocide, c'est comme une grosse bête qui est venue et a dévoré tout le monde. Le grand, lui, je vois qu'il commence à comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais il pense que c'est un temps qui est déjà passé. Pour lui, il n'y a plus Hutu ni Tutsi. Il comprend que c'est quelque chose qui a déjà existé, mais qui n'existe plus. Même le petit qui pense que le génocide va le manger, il va finir par comprendre que c'est fini. Je lui explique que cela ne se reproduira plus pour qu'il soit un peu en paix. Et j'espère que cela ne se reproduira plus.
Tous les survivants du génocide ne voient pas le problème qu'on a de la même façon. Et puis, c'est dire qu'ils ne vont pas transmettre à leurs enfants de la même façon. Parce qu'ils ne jugent pas, ils n'analysent pas la situation de la même façon. Mon ami d'enfance, qui vit au Canada, il m'a dit, je vais dire à ma fille, il n'y a pas de grand-père ou de grand-mère. Ils ont été tués parce qu'ils étaient Tutsi. Toi aussi, tu es Tutsi. Mais il faut que tu aimes tout le monde. C'est comme si les gens qui nous ont persécutés et tués nous ont laissé cet héritage de nous de continuer toujours à nous identifier. Pour moi, je considère que c'est du poison. Et je voudrais que ma fille grandisse dans un monde absente de ses identités fictives. Si elle tomberait amoureuse d'un soi-disant Hutu, moi, ça ne me poserait aucun problème. Aucun problème. Parce que si ce soi-disant Hutu savait que cette identité-là, c'est fictive, ça, j'en serais content. Mon meilleur espoir, c'est à ce que ce type ne se considérait pas comme Hutu. Il se considérait comme Rwandais, comme quelqu'un amoureux de Tania.
Avec Paul, Dévote, Bonheur, Justine, Brigitte, Damas, Ange, Égide, Charlotte, Claire, Jeannette, Laetitia, Youssoufou, Yvonne. Merci aux enfants, Genesis, Tania et tous ceux que nous avons rencontrés au Rwanda.
Merci au Mémorial du génocide de Kigali, à tous ceux qui nous ont fait confiance et accompagnés. Alain Mouisseneza, Zaz, Clémence, Amélie, Stas. Merci aux amis et rescapés parents qui ont partagé avec nous leur intimité, parfois amère, mais douce aussi.
Merci à ma famille, Maurice, Simon, Daniel, Jérémy, à mes filles, Esther et Ada.
Merci à ma famille, à mes frères, mes tantes, ma sœur Marie, à mes enfants Elias et Hugo, et à mon mari Alain.
Merci aux comédiennes qui ont prêté leur voix. Margaret, Valentine, ATT, Nido, Laurine, Saskia. Prise de son, Sarah Jacquet au Rwanda et à Paris en studio, Alain Joubert et Pierrick Charles.
Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Aurélie Charon et Inès Duperron.
Merci à Marianne Bello pour son accompagnement sensible, à Irène Omelianenko pour sa confiance, à Virgile von Guineken pour le son. Un documentaire d'Yvette Jalad Maestroni, Sarah Jacquet et Christine Robert.
Toutes les expériences sont à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture. Cette semaine, nous lançons sur le fil de podcast la série en 3 épisodes de Léa Capuano, qui a retrouvé et réuni les enfants interviewés par Marguerite Duras dans les années 60 à Paris. Puis dimanche prochain, à 23h, le photographe Felipe Camacho nous emmène en Colombie, à travers la forêt amazonienne, dans un village des FARC, qui depuis le processus de paix envisage d'accueillir, dans une zone encore compliquée, quelques touristes. En attendant, il est presque minuit, vous écoutez France Culture, l'expérience et la création, ça continue.